Le programme sur Fréquence Paris Pluriel, 20h30, mode d'emploi, avec aujourd'hui dans mode d'emploi les réflexions chez les sociologues, économistes, philosophes pour sortir notre société de sa situation actuelle et le point de vue d'Assé, ainsi qu'une lutte intersyndicale en cours au journal La Croix et des nouvelles du mouvement social. Le mode d'emploi, c'est à 20h30.
Le chômage vous préoccupe.
Ah ouais, ouais.
Occupez les AMPE.
Ah.
Occupez les AMPE.
Alors qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé, qu'un chômeur indemnisé sur deux touche moins de 3 000 francs par mois, que ces 100 000 jeunes de moins de 25 ans interdits de RMI n'ont droit à aucune indemnité. Les pouvoirs publics de la 4e puissance économique mondiale
risquent toujours d'entendre les revendications des chômeurs et des précaires.
Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être blancs. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être blancs. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être blancs. Nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être blancs.
Après la mobilisation, lors de la négociation de la convention unique, alors que les intermittents de spectacle poursuivent leur lutte pour la défense d'un statut qui apporte un minimum de garantie face à la flexibilité généralisée de l'emploi. Salariés des chômeurs précaires ou en traité, ils maintiennent leurs revendications pour la réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire pour un revenu garanti à toutes et tous au moins égal au SMIC, et poursuivent leur mobilisation. Poursuivent leur mobilisation.
Nous sommes nombreux, d'être plein. Ouais, nous sommes nombreux, nous en avons assez d'être plein.
Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'Assé, agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris Pluriel, 106.3 MHz.
Bonsoir, nous arrivons avec vous sur FPP 106.3. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30 pour l'émission Mode d'emploi. Vous pouvez bien sûr toujours nous téléphoner au 01 48 13 00 99 ou nous écrire au 129 avenue du Président Wilson, 93 210 La Plaine-Saint-Denis. Vous pouvez aussi nous écrire à AC 61 rue d'Avron, Paris 75 020. Aujourd'hui, nous aurons trois parties dans cette émission. Suite à l'émission que nous avions faite le 29 mai avec le sociologue Alain Caillé, nous allons débattre ce soir sur le revenu garanti tel que le conçoit AC. Ensuite, nous donnerons la parole aux salariés de l'imprimerie de La Croix en lutte actuellement pour le maintien de leur emploi. Puis, les dernières nouvelles du mouvement et les prochaines actions. Alors maintenant, tout de suite, le débat sur le revenu garanti.
Entrez dans le débat.
Claude, tu as souhaité que nous revenions sur l'interview d'Alain Caillé que nous avons diffusée il y a 15 jours. Je rappelle qu'Alain Caillé est un sociologue, professeur à Nanterre, qui a fondé une association, l'AECEP, et qui dirige une revue, la revue Dumas. Le contenu de cette interview était très intéressant et nous vous le rediffuserons sans doute cet été. Mais vous pouvez aussi nous téléphoner ou nous écrire pour nous le demander. « Dans l'interview en question, Alain Caillé exprime son désaccord avec AC sur un point précis, le niveau du revenu minimal garanti. Bon, à AC, on dit que le SMIC n'est rien et que moins que le SMIC, c'est moins que rien. Alain Caillé envisage un revenu minimum garanti au niveau du RMI. Je crois, Claude, que tu souhaites expliquer clairement la position d'AC. Et pour ce faire, tu veux expliquer d'abord qu'il y a une grande différence idéologique entre, d'une part, ceux qui revendiquent un revenu minimum garanti pour tous, mais à un niveau autour du RMI, c'est-à-dire insuffisant pour vivre, et d'autre part, ceux qui revendiquent un revenu minimum garanti pour tous, mais égal au SMIC, c'est-à-dire permettant de vivre, manger, se loger, etc. Enfin, rien d'excessif. Tu n'y vois pas essentiellement une différence financière, mais surtout une différence idéologique. Peux-tu d'abord nous décrire le premier système ?
Oui, alors, en fait, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir rentrer dans le débat. Alain Caillé nous a dit qu'un débat était en cours sur l'ensemble des problèmes qui sont posés à la société par un chômage massif, et que dans ce débat, le problème du revenu était bien entendu fort important. Bon, alors, effectivement, AC pense qu'il y a une différence assez fondamentale par les conséquences dans un cas et dans l'autre entre la revendication d'un revenu minimum garanti qui ne permet pas de vivre en réalité, qui ne permet pas de vivre sans complément, et un revenu garanti qui permet de vivre, enfin disons, qui atteint le minimum vital qui est socialement reconnu, c'est-à-dire en fait le SMIC. Alors, dans la première, la première solution, c'est-à-dire le revenu minimum garanti inférieur au SMIC, il faut bien savoir que c'est en fait ce qui est en cours en France au travers du RMI et de l'allocation spéciale de solidarité, qui tourne autour de 2300 francs, mais que c'est une vieille proposition ultra-libérale. Hein, puisque celui qui probablement en a fait la première proposition est M. Friedman, prix Nobel d'économie de Chicago, ceux qui défendent d'une manière générale, dans ces ultralibéraux, ceux qui défendent cette solution, ils voient plusieurs avantages. Premièrement, ça leur donne une couleur un petit peu humaniste. Deuxièmement, ça oblige les salariés, enfin ceux qui sont bénéficiaires de ce revenu garanti, à chercher des compléments et donc à courir pour trouver, je veux dire, n'importe quoi comme travail. C'est-à-dire que ça continue à les constituer comme esclaves des patrons. Et enfin, troisièmement, on peut considérer que quelque part, c'est aussi une subvention au patron. Parce que le patron qui sait que le salarié en question a besoin absolument de ce complément va le mesurer au plus juste de manière à donner au salarié, à ce que le salarié dispose en fait d'un revenu que le patron considère comme suffisant, en ajoutant le revenu minimum garanti et ce que le patron donnera lui-même. Donc, en fait, cette solution ne change pas fondamentalement la situation dans notre société. Les chômeurs continuent à être obligés de courir chaque jour après un emploi. Ils ne le trouveront pas dans la plupart des cas d'ailleurs. Hein, et ça continue à les maintenir dans une galère qui est organisée par le patronat. Alors, quelles sont les justifications à cette solution ? Bon, le gouvernement en particulier en avance deux. La première, c'est que quelque part, il est immoral de percevoir des revenus sans travailler. Alors ça, c'est ce que M. Jospin exprime en refusant ce qu'il appelle l'assistance, même si lui-même ne voit pas d'inconvénient à percevoir des revenus sans travailler, comme ça s'est produit quand il a été battu aux élections. Simplement en face de ça, on pose la question, est-ce que c'est moral de laisser les gens crever de faim, alors que ce pays a les possibilités de faire autrement? Alors ça, c'est la première explication, la première justification. La seconde, c'est que ce serait trop coûteux sur le plan financier. Et M. Jospin lui-même a chiffré l'augmentation des minima sociaux, qui est réclamée par les revendications de cet hiver, à 70 milliards. Et puis il se trouve qu'il y a des plus-values fiscales inattendues, et que ses plus-values fiscales, c'est autour de 80 milliards. Alors, bien entendu, la logique des chômeurs, c'est de dire, bon, bah, puisqu'il faut 70 milliards et qu'on en a 80, donc on va augmenter les minima sociaux. Eh bien, pas du tout. Le gouvernement a décidé de consacrer ces 80 milliards, non pas aux minima sociaux, mais à diminuer la dette publique en l'amenant à 2% du produit intérieur brut, alors que les critères de Maastricht, pourtant, on sait à quel point ils sont arbitraires, prévoyaient 3%, c'est-à-dire de faire mieux que les critères de Maastricht. Alors, la vraie raison, bien entendu, qui pousse le gouvernement, c'est ni l'immoralité, parce qu'ils sont pas assez prêts, ça n'est pas non plus le manque de crédit, on vient de le démontrer, c'est parce qu'ils pensent que augmenter les minima sociaux déclencherait inévitablement des revendications salariales. Et c'est clair que si les minima sociaux se rapprochent du SMIC, il va y avoir des revendications salariales de la part des SMICards. C'est totalement logique. Et le gouvernement a la trouille la plus verte que cette demande d'augmentation de revendications salariales, ces nouvelles revendications salariales, ferait faire les gros yeux au CNPF, ce qui terrifie bien entendu le gouvernement. Mais ce que nous pensons, nous, c'est que, comme c'est déjà commencé, les revendications salariales vont de toute façon avoir lieu, hein, quand on voit la quantité incroyable de bénéfices qu'ont entassé les entreprises. Les salariés le savent comme tout le monde, et donc les revendications salariales vont redémarrer, et en fait c'est déjà commencé, on s'en aperçoit à Air France, on s'en aperçoit à EDF GDF, on s'en aperçoit un peu partout. Voilà, alors ça c'est la première solution, et les justifications qu'essayent d'en donner les tenants de cette première solution.
Donc il s'agit bien, comme tu le dis, d'un problème idéologique.
C'est-à-dire qu'avant de dire que c'est un problème idéologique, je crois qu'il faut constater que les deux solutions ont des conséquences extrêmement différentes.
Je voudrais vérifier que j'ai bien compris ce que tu as expliqué sur la première solution. Si les gens touchent un demi-SMIC et cherchent du travail, tu expliques que le patronat va considérer ces salariés-là comme des gens cherchant un salaire d'appoint.
Oui.
Comme on dit que dans un ménage, le salaire de la femme est un salaire d'appoint.
Et on voit les résultats.
Et qu'à ce titre-là, elle est à travail égal, payée moins qu'un homme.
Voilà.
C'est donc ça.
C'est de ça que je veux parler,
oui.
En fait. On crée
une autre catégorie encore de travailleurs,
voilà.
Ceux qui prennent un salaire d'appoint.
Ceux qui, puisqu'ils touchent un revenu garanti égal à un demi-SMIC, n'ont droit en définitive qu'à un salaire d'appoint, quelles que soient leurs conditions d'emploi. Voilà,
donc maintenant, tu vas nous expliquer comment tu vois un revenu minimal garanti égal au SMIC. Et d'abord, est-ce que c'est possible financièrement? Ensuite, je trouve que ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer les rapports entre les gens qui travaillent et les anciens chômeurs ou les chômeurs. Ça va aussi changer les rapports entre les gens dans la société, parce que ça va être la fin des galères pour énormément de gens. Et en fait, ça ressemble à une sorte de révolution culturelle, puisque le travail ne sera plus du tout vécu de la même façon.
Oui, alors cette revendication de revenu garanti égal au SMIC est avancée par deux organisations, AC bien entendu, et puis aussi la CGT, qui revendique pour les chômeurs un revenu égal à 80% du SMIC, mais un SMIC majoré tel que le demande la CGT. Et en fait, les deux revendications aboutissent à des chiffres extrêmement proches les uns des autres. Bon, alors financièrement d'abord. Grossièrement, on peut dire 5 millions de chômeurs à 5 000 francs par mois. Rapidement, ça fait 25 milliards par mois. En fait, un peu plus que ça, puisque les chômeurs sont probablement autour de 5 millions, mais on n'a pas le chiffre exact, et le revenu, le SMIC, est à plus de 5 000 francs par mois. Donc c'est de l'ordre de 25 à 30 milliards par mois. Ce qui, dans l'année, donne entre 300 et 400 milliards. Pour l'instant, il n'est pas possible d'avoir une plus grande précision. Mais ce que nous savons, c'est que le coût du chômage pour le pays, si on ajoute les dépenses, non seulement les dépenses d'allocation chômage, mais aussi les dépenses de stage bidon, les cadeaux au patron. Et puis si on y ajoute aussi le manque à gagner, en particulier fiscal, parce que les gens qui sont au chômage, très généralement, en particulier RMI, RSS, etc., ne payent pas d'impôts. Bon, tout ceci coûte au pays plus de 1000 milliards par an. C'est un économiste qui s'appelle Nikonov qui a fait ce calcul. Bon, c'est-à-dire que si on donne un revenu garanti qui supprime toutes les dépenses de chômage, par définition, toutes les dépenses liées au chômage, si on donne ce revenu garanti, on économise pour le pays de l'ordre de 600 milliards. C'est-à-dire qu'il existe la possibilité, sans problème, de supprimer la pauvreté dans ce pays au travers de ce revenu garanti. Et non seulement on supprime la pauvreté, mais on se trouve avec une masse de crédits disponibles qui peuvent être redéployés autrement. Alors, ça ne s'arrête pas là, l'avantage du revenu garanti. C'est que ça permettrait à tous les chômeurs, débarrassés de la nécessité de courir tous les jours pour trouver un emploi que de toute façon ils ne trouveront pas, ça leur permettrait de rechercher et même d'inventer des activités qui ne sont pas du travail salarié, mais des activités qui sont utiles à l'ensemble de la société. Que ce soit des activités sociales, des activités culturelles, des activités écologiques, etc. Et à partir de ce moment-là, nous entrons dans un nouvel état de la société. C'est-à-dire que les gens ne sont plus soumis à la galère qui leur est imposée aujourd'hui par la situation de l'emploi, c'est-à-dire en fait par le patronat, et ont la possibilité d'imaginer, d'inventer des activités qui seront utiles à l'ensemble de la société. C'est-à-dire que nous entrons dans une toute autre logique, hein, et c'est ceci, je crois, qui montre que par rapport à la première solution, celle du SMIC insuffisant pour vivre, il y a une différence, je dirais, politique, idéologique, culturelle, etc., absolument considérable entre les deux solutions. C'est le jour et la nuit. Et bien entendu, comme tu le disais Michel, ça veut dire quelque part une espèce de révolution culturelle. Depuis deux siècles, le travail, c'est cette activité contrainte, le travail salarié, etc., etc. À partir du moment où on a un revenu, et nous avons dit que c'était financièrement tout à fait possible, nous avons un revenu minimum garanti égal au SMIC, nous sortons de cette logique culturelle, l'égalité travail égal travail salarié. En fait, le travail salarié n'est plus la seule manifestation de l'activité humaine, il s'en ajoute une autre qui est de l'activité sociale, écologique, culturelle, je dirais inventée par les chômeurs eux-mêmes. Étant bien entendu, bien sûr, que cette invention doit être soutenue par tout un dispositif organisé qui leur facilite la découverte de ces activités-là. Par exemple, on pourrait imaginer que reconvertir la NPE dans cette activité.
Gros boulot,
mais reconvertir est tout à fait concevable. C'est certainement difficile parce que les gens de la NPE sont plutôt habitués.
Sont-ils reconvertis
à servir, oui, je pense, à servir les entrepreneurs. C'est comme ça qu'on les a formés. Mais je veux dire, il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne sont pas capables de faire cela. Donc voilà, je crois que ce sur quoi il faut bien insister, c'est à dire que les deux solutions sont fondamentalement opposées. Dans un cas, on ne sort pas de la logique actuelle, c'est-à-dire on continue dans la galère que vivent les chômeurs, etc., etc., puisqu'ils doivent continuer à chercher un travail très improbable, qu'ils ne trouveront pas dans la plupart des cas. De l'autre côté, on entre progressivement dans un autre état de la société, celui dans lequel, on peut dire, le travail n'est pas une contrainte imposée, démoralisante, déshumanisante, etc., etc. C'est-à-dire que où quelque part, l'activité, et non pas le travail, je dirais, c'est une notion plus large, en définitive, de dire activité, est quelque chose de consenti, non seulement consenti, mais volontaire, voilà. Alors, on nous dit que, bien entendu, ceci est utopique, mais à partir du moment où les possibilités existent, en particulier sur le plan financier, on se demande pourquoi ceci n'est pas exploré, au moins par notre gouvernement. Nous savons que notre gouvernement est socialement réactionnaire, mais nous pensons aussi qu'il est économiquement réactionnaire. Parce que ce dont nous parlons là, c'est de la mise en place en fait d'une autre économie, hein, qui n'est pas l'économie capitaliste classique, qui en déborde. Ce que nous pensons en fait, c'est que la frousse de voir le CNPF froncer les sourcils est quelque chose qui rend nos gouvernants idiots.
Oh, il n'y a pas que ça. Merci beaucoup Claude, ta présentation est très 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 claire. Si j'ai bien compris, dans l'un des cas, on continue, on accepte qu'il y ait toujours des pauvres et des chômeurs, apparemment au nom de la morale, mais en fait parce que les gens, je veux dire les politiques et les patrons, veulent conserver tout leur pouvoir et tout leur argent. Dans l'autre cas, c'est une société nouvelle, avec de nouveaux rapports entre les gens, de nouveaux rapports à l'argent, au travail, au temps, à la vie, enfin une révolution culturelle.
C'est ça, et on ne sortira pas de la situation actuelle sans un minimum d'utopie, on nous traite d'utopistes, mais à partir du moment en particulier où le pognon est là, hein, je ne vois pas, le pognon est là pour le faire, je ne vois pas ce que ça a d'utopique. C'est certainement difficile à mettre en place en termes d'organisation, en termes de changement de culture, hein, mais ça n'est en rien utopique. C'est ma conviction absolue.
Voilà, j'espère que nous vous avons convaincu, mais si vous n'êtes pas encore convaincu, prenez contact avec nous, on en rajoutera.
Ce petit passage là avec Claude, c'était suite à l'interview que vous aviez entendu l'autre fois, l'interview d'Alain Caillé, qui avait émis des réserves, qui est tout à fait d'accord pour un revenu minimum garanti, mais qui avait émis des réserves sur la hauteur de ce minimum et qui pensait qu'un demi-SMIC pouvait suffire. Qui est Alain Caillé? Eh bien, c'est le directeur de la revue Mauss. Mauss, c'était à la fois un célèbre ethnologue français qui malheureusement est mort depuis longtemps, mais c'est aussi le titre d'un mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales qui s'est constitué en réaction aux habitudes des économistes qui, du haut de leur science supposée, nous abreuvent de recettes mettant notre société dans l'état où elle est aujourd'hui. Alors cette revue Mauss, elle est semestrielle, elle est éditée à La Découverte. La Découverte, c'est une maison d'édition française, donc vous pouvez demander dans n'importe quelle librairie la revue Mauss en disant qu'elle est éditée à La Découverte. Nous signalons particulièrement le numéro 9 du premier semestre 97 qui vient d'être réédité parce qu'il a fait un malheur, qui regroupe 25 articles sous le titre « Comment peut-on être anticapitaliste ?» Bien sûr, c'est un titre humoristique. Vous y trouverez en particulier, d'Alain Caillé, 30 thèses pour contribuer à l'émergence d'une gauche nouvelle et universalisable. C'est tout un programme. De toute façon, la revue Mauss, vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce que nous, elle nous intéresse, on la lit et il y a plein d'idées qui nous concernent. Voilà, normalement on passe à de la musique, n'est-ce pas Claude? Mais Claude répond au téléphone, alors Claude ne passe pas la musique. Ben oui, il ne peut pas tout faire. Eh bien, je vais vous parler d'un autre livre. Alors, la prochaine fois, vous aurez une interview de Pierre Bitoun à propos d'un livre qui s'appelle « Les Cumulards ». C'est un livre sur la confiscation de l'argent, du pouvoir et de la parole par les mêmes. C'est un livre très, très intéressant qui est paru chez Stock et qui raconte des choses qui, si on en reste là, sont finalement assez... assez déprimante, oui, parce qu'on y constate qu'on est gouverné par une poignée de gens qui ont tout pour eux et qui ne nous laissent rien. Voilà, musique Claude, merci.
chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. À toi, Monique.
Pour l'émission Mode d'emploi jusqu'à 21h30. Alors, nous continuons maintenant avec les salariés de l'imprimerie de la Croix en lutte actuellement. Il y a eu d'ailleurs aujourd'hui, rue Bayard et place François 1er, une manifestation organisée par ces salariés et l'intersyndicale. Alors nous écoutons le débat.
Suite à l'émission du 29 mai 1998, l'émission Mode d'emploi, nous avions précisé que le journal La Croix était en conflit, et voici la suite de Que se passe-t-il au journal La Croix.
Alors, nous sommes sur le site où est imprimé le journal La Croix. Nous sommes les deux Claude, comme habituellement, et Monique. Alors, autour de la table, nous avons plusieurs représentants du personnel de la Croix, et nous allons leur demander de se présenter.
Voilà, ben, je vais me présenter. Je m'appelle Bruno Casso, je suis délégué syndical CGT, ressortissant donc du SGLCE.
Alors moi je me prénomme Roland, mon nom c'est Borde, je suis rotativiste, délégué du personnel et représentant du SGLCE aussi.
Je m'appelle Ouvray Gilbert, je suis représentant des messageries du journal La Croix.
Michel, du syndicat général du livre et communication écrite, travaillant actuellement au départ poste imprimerie en presse.
Alors les présentations étant faites, est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique du groupe Bayard dont fait partie le journal La Croix ?
Oui, tout à fait, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que le groupe Bayard Presse n'est pas un groupe spécifiquement connu au niveau national, mais il faut quand même savoir que c'est un groupe de presse catholique à actionnariat privé. Le principal actionnaire étant la Congrégation des Assomptionnistes. C'est le cinquième groupe de presse français par la diffusion, avec plus de 40 titres en France, dont le quotidien La Croix, et plus de 50 titres à l'étranger, ce qui représente près de 7,5 millions d'acheteurs et 30 millions de lecteurs dans le monde. Nous sommes, au niveau du groupe, près de 1500 salariés, avec plus de 2000 pigistes, et aussi un chiffre d'affaires du groupe dépassant les 2 milliards de francs.
Dans ce groupe de presse, donc, il y a le journal La Croix, qui a un statut très spécifique, si je puis dire.
Oui, tout à fait. Bon, le journal La Croix, c'est un journal qui a un journal donc national, hein, qui a 115 ans donc d'existence, soit aujourd'hui 35 000 sorties du quotidien depuis 1883, qui a toujours été fabriqué en interne donc par des ouvriers du livre. C'est un tirage journalier de 105 à 110 000 exemplaires pour un réseau d'abonnés de 80 000, donc 80 000 abonnés, et 25 à 30 000 exemplaires déposés en kiosque pour environ 3 500 exemplaires vendus chaque jour en kiosque. Donc notre principale force résidant dans la fidélité de nos abonnés.
Comment se déclenche ce conflit? On va essayer de regarder un peu ça. Alors, vous êtes informé que la direction a décidé de faire évoluer le journal pour répondre aux attentes de ses lecteurs, dit-elle, avec l'objectif évidemment d'augmenter la diffusion. Vous êtes convoqué pour, je ne sais pas dans quelle réunion, je ne sais pas si ça s'appelait comité de direction,
à tous les niveaux.
Donc, vous êtes convoqué pour parler de ça. Et vous apprenez qu'il est question d'externaliser l'impression de ce journal, donc ce qui correspondrait à priver 41 personnes du travail qu'elles effectuent actuellement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la direction a fait, je dirais, une intervention le 3 avril au niveau donc des délégués du personnel sur le site de Montrouge, au niveau du comité d'entreprise de Bayard Presse SA. Et en même temps, il y a eu conjointement une information au comité d'entreprise de la SICAVIC, du groupe Amaury, qui fabrique Le Parisien et L'Équipe. Donc je pense que maintenant, il faudrait qu'on parle un petit peu donc, du conflit qui nous oppose et la question que vous venez de me poser par rapport à la direction, et ce depuis l'annonce, je dirais, qui pour nous est brutale, du 3 avril 1998, où la direction s'oriente fortement vers l'externalisation et la sous-traitance de la fabrication du quotidien La Croix.
Oui, on peut demander à un délégué du personnel comment il a vécu, d'ailleurs, cette annonce.
Nous avons vécu cette annonce très mal, de telle sorte que le 3... Il ne nous a pas été seulement fait une déclaration d'externalisation ou de solution interne, mais suite à ça, nous avons cessé immédiatement le travail. Nous avons fait venir des membres du directoire, dont un membre du directoire, Charles-Jean Pradel, nous a dit que le lundi 5, nous pouvions monter les uns après les autres pour un plan social. Donc c'était une annonce vraiment préméditée.
Je voudrais dire aussi que par rapport donc à ce conflit qui nous oppose à la direction depuis le 3 avril, la direction nous a fait part d'un projet d'évolution du journal. La Croix, journal du matin, augmentation du tirage, augmentation de la pagination, un numéro spécial week-end. Donc, pour répondre à ce projet d'évolution, il y avait nécessité de moderniser l'outil industriel de fabrication, notamment la rotative. Donc, par rapport à cette modernisation, la direction nous a présenté une alternative avec deux options. Une première option, une modernisation en interne de l'outil industriel, mais ils nous ont fait savoir rapidement que cette option n'était pas pour eux viable économiquement. Et la deuxième option, l'externalisation, donc la sous-traitance, dans le groupe Amaury La SICAVIC, qui fabrique Le Parisien et L'Équipe, qui pour eux présente tous les avantages techniques et économiques, l'offre d'Amaury étant à hauteur de 18 millions d'euros, mais qui exclut la totalité du personnel de fabrication, soit 41 personnes. Ils nous invitaient même, et comme le camarade vient de vous le dire, délégué du personnel, et ce dès le 3 avril, à négocier le plan social. Donc, la position de l'ensemble des élus de la fabrication du journal a été la suivante. Par rapport à cette position d'externalisation et du plan social qui l'accompagnait, nous avons opposé un refus catégorique. Nous leur avons fait savoir que nous étions favorables au principe de l'évolution et de la modernisation du titre La Croix, mais que pour nous, la seule solution acceptable est la pérennité de nos emplois avec une modernisation en interne de l'outil industriel et la préservation de l'indépendance du titre.
Oui, cette indépendance d'ailleurs qui a toujours défendu la direction de La Croix.
Oui, tout à fait. Oui, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation du journal La Croix, ça fait quand même 115 ans d'existence du journal et toujours fabriqué en interne. C'est-à-dire que c'était une des priorités des directions successives de l'entreprise et une des priorités de la congrégation des assomptionnistes. Parce que le journal La Croix, c'est quand même un quotidien catholique et ils n'ont jamais voulu que ce quotidien catholique soit réalisé dans les standards, ce qu'on appelle presse parisienne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les ouvriers de fabrication de ce journal ont un statut à part de la presse parisienne.
Bien, alors tout ceci étant précisé, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a été décidé tout à coup cette modernisation de La Croix et pourquoi tout ça est aussi urgent? Enfin, il y a eu un changement de direction, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, je pense que la brutalité de la chose est venue après un long mûrissement. Il faut savoir qu'à la direction générale, le directoire a été entièrement renouvelé d'une part, et il faut savoir qu'à la direction de la rédaction de La Croix, le rédacteur en chef a lui aussi été renouvelé. Il s'agit de Bruno Frappa, qui vient du journal Le Monde. Et il apparaît que Bruno Frappa, dans un esprit de modernisation et d'un peu de mégalomanie, a décidé de mettre cette nouvelle formule au jour avec l'appui du nouveau directoire qui, lui, n'est pas forcément sujet à connaître bien la presse, car en effet, le président du directoire, M. Alain Cordier, vient des hôpitaux de Paris. Alors on pense qu'il y a beaucoup de conjonctions qui fait que on en est arrivé à cette situation.
Je dirais, pour ajouter un petit mot, c'est-à-dire que ceux qui nous dirigent actuellement, je dirais, n'ont pas la culture presse qui était... culture presse et je dirais culture bayardienne qui était la nôtre. Et ce qui fait que ce changement, je dirais, brutal au niveau du directoire et le changement de son président fait qu'on se retrouve donc devant une direction qui est plus dans le cadre de l'économie de marché que dans le cadre d'une culture bayardienne.
Donc, devant cette direction, est-ce que vous pouvez repréciser les propositions que vous avez faites?
Oui, tout à fait. Étant dans le cadre d'une organisation syndicale responsable, nous avons été force de proposition et nous avons soumis à la direction un plan de modernisation en interne, où nous avons abordé les volets techniques, économiques et sociales. L'ensemble de ce projet aboutissant à la sauvegarde de l'emploi, de la modernisation de l'industriel, et ce, pour un coût d'exploitation équivalent à celui d'aujourd'hui, soit environ 25 millions de francs sur 5 ans.
Les 25 millions sont en fait à comparer à la proposition du groupe Amaury, si je comprends bien. C'est-à-dire que la différence tourne autour de 6 millions, quelque chose de genre, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Par rapport à notre proposition, nous sommes donc à un différentiel de 6 ou 7 millions de francs, et voire 8 millions de francs pour la direction, puisque elle, je dirais, voulant s'orienter dans le cadre, si, avec un grand si bien sûr, elle s'orientait dans le cadre d'une solution interne, elle nous a fait savoir qu'elle était prête, donc, sur cette base-là, à investir à hauteur de 30 millions de francs dans le cadre de l'outil industriel. Mais pour ça, elle situerait donc, elle, un coût d'exploitation de l'ordre de 26 millions de francs, soit c'est-à-dire pour la direction un coût différentiel entre la sous-traitance et notre coût d'exploitation en interne, de l'ordre de 8 millions de francs. Mais par rapport donc à cette déclaration qui a été faite par la direction dans le cadre d'une solution interne, nous, élus CGT, leur avons fait une autre proposition qui était que si la direction avait la volonté, à ce jour, de s'inscrire dans une solution interne, nous étions prêts à nous asseoir à une véritable table de négociation, de façon à examiner avec eux l'outil industriel, d'ajuster les effectifs nécessaires à l'exploitation de cet outil et de voir ce qu'il était possible de faire au niveau de la masse salariale. Donc, par rapport à cette proposition que nous avons faite, la direction, à ce jour, nous a opposé un refus. Donc, elle l'est toujours bien dans le cadre d'une solution externe et l'externalisation reste toujours d'actualité à ce jour.
Et donc, c'est 8 millions de francs, c'est le prix de la protection des 41 emplois en question et aussi de l'indépendance traditionnelle du journal La Croix et du groupe en général. Une culture qui est bien inscrite dans ce groupe, si je comprends bien.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il s'est tenu une réunion avec le SGLCE et les élus CGT de l'entreprise, avec la direction, sur le sujet. C'est-à-dire que le SGLCE a fait savoir à la direction que, obligatoirement, entre une solution interne et une solution externe, il existerait toujours un différentiel. Ça, c'est clair, qu'on ne peut pas descendre à hauteur de 18 millions d'euros, même dans le cadre d'une solution interne. Mais qu'on pouvait regarder ce qu'il était faisable de faire pour diminuer ce différentiel. Et, je dirais, le SGLCE a fait savoir à la direction, avec ses élus, les élus CGT, que ce différentiel qui existait entre une solution interne et externe, c'était justement la sauvegarde de ses emplois dans l'entreprise, c'était la modernisation de son outil industriel et c'était l'indépendance totale de son titre. Voilà.
Donc, le conflit, si je comprends bien, a commencé le 3 avril, et puis ensuite, quelles ont été les étapes?
Les étapes successives ont été, par rapport à ce conflit donc, qui a débuté le 3 avril, c'était déjà notre proposition qui a été soumise à la direction, et sur lequel, bon, cette proposition n'a pas été encore à ce jour retenue par la direction. Ça a été le refus de la direction de vouloir se rasseoir à la table des négociations pour essayer d'aboutir à un projet d'une solution en interne. Ça a été, de la part de la direction, deux mois, je dirais, de demande de sa part qu'on aille s'asseoir à la table, pas des négociations, mais à la table du plan social. Donc, par rapport à ça, nous, le personnel de fabrication et ses élus ont toujours refusé de rentrer dans le cadre d'une solution externe et du plan social qui l'accompagnait. Parce que pour nous, il est clair qu'un groupe de presse comme le groupe de presse Bayard a les moyens à ce jour de réaliser cette modernisation et a les moyens de pérenniser ses emplois et a les moyens de garder son indépendance. Parce que en plus, il faut savoir quand même que c'est une direction qui a la volonté aussi de s'inscrire dans le cadre de la réduction du temps de travail pour créer des emplois. Ça, il faut quand même, ils veulent être les pionniers, je dirais, dans le cadre des entreprises françaises auprès du ministère du Travail, à s'orienter vers la réduction du temps de travail pour créer des emplois. Et c'est pour cela que nous, représentants CGT, avons fait savoir à la direction que tant que le problème de l'emploi dans le cadre et qu'une solution interne ne serait pas donc initiée de leur part, nous nous refusons à ce jour de négocier la réduction du temps de travail. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que nous avons été suivis par l'ensemble des organisations syndicales de Bayard Presse, soit le SNJ, la CFDT et CGTFO qui s'est inscrit derrière nos revendications, parce que nous avons des revendications qui sont légitimes.
Je voudrais continuer un tout petit peu en apportant une précision, à savoir qu'à une décision éminemment politique de la direction de Bayard Presse, qui a tout à fait les moyens économiquement de satisfaire notre proposition interne, nous avons opposé nous-mêmes une décision politique, à savoir halte aux fermetures des sites industriels, halte aux suppressions d'emplois, ça suffit, on ne peut plus tolérer ça, halte aux plans sociaux, enfin voilà, telle est notre réponse.
Vous avez eu un certain nombre d'actions depuis le 3 avril, en particulier vous avez sorti à 4 pages, là, si j'ai bien compris, et de temps en temps, le journal La Croix lui-même n'est pas sorti. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça rapidement?
Oui, tout à fait, c'est une très bonne question, puisque vous pensez bien que depuis le 3 avril, et par rapport à la position du directoire, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Donc nous avons réalisé un 4 pages sur l'évolution de la Croix, une nécessité, elle doit passer par la modernisation en interne de son outil industriel, c'est la seule solution humainement acceptable par le personnel de fabrication. Donc ce 4 pages a été réalisé par l'ensemble du personnel de fabrication, à laquelle ont participé aussi l'ensemble de l'intersyndicale, soit le SNJ, la CFDT et la CGTFO. D'ailleurs, il y a une prise de position de ces syndicats qui soutiennent les revendications de la CGT dans le cadre de notre 4 pages. Je crois que c'est un 4 pages qui est très important, je dirais, pour nous, puisqu'il retrace depuis le 3 avril le conflit qui nous oppose à la direction, parle de notre projet, parle de la position du directoire, de nos réactions, de l'ensemble de ce qui a été initié depuis le 3 avril. Donc ça, c'était une réalisation importante de notre part qui a été roulée en interne sur notre outil industriel, ce qui a valu un avertissement à 5 rotativistes de la fabrication du journal, alors que l'ensemble du personnel a participé à la rédaction, à la fabrication et à la distribution de ce 4 pages, puisque nous en avons distribué à ce jour plus de 15 000 exemplaires dans l'ensemble, sur l'ensemble de Paris, avec des actions ponctuelles, notamment une distribution, donc bien sûr, à notre siège situé 5 rue Bayard. Nous en avons distribué le même jour à FR3, à Antenne 2, à Europe 1, à RTL. Nous en avons distribué à la sortie du métro Champs-Élysées. Et je dois dire que ça a été quand même une grande réussite, puisque en revenant prendre les métros et en revenant prendre nos voitures, nous n'avons vu aucun exemplaire que nous avions distribué le matin sur la chaussée. Donc c'est sûr que les gens s'intéressent aussi à ce qui se passe dans le cadre du journal La Croix.
Oui, moi je voudrais revenir une petite minute sur les 5 lettres recommandées qu'ont fait rire l'ensemble du personnel, parce que on a l'impression que ça a été totalement arbitraire et que ça a été tiré dans un chapeau. C'était une manœuvre de division de la direction qui s'est retournée contre elle, étant donné que l'ensemble de l'intersyndicale de Bayard Presse et tout le personnel de fabrication de Montrouge a demandé par écrit l'envoi d'une lettre d'avertissement de la même teneur que les 5 camarades qui l'avaient reçue.
Et à ce sujet-là, je crois qu'il y a eu un soutien aussi actif de l'ensemble, bien sûr, du personnel de Montrouge, directement concerné, mais aussi de l'intersyndicale de Bayard Presse, c'est-à-dire la CGT, la CFDT, FO et le SNJ, qui dit non aux avertissements arbitraires. C'est-à-dire que la direction, n'ayant pas tardé à réagir à notre numéro spécial 4 pages sur l'évolution de la Croix, une nécessité, elle a envoyé donc des mesures disciplinaires individualisées, et l'ensemble donc de l'intersyndicale, ayant eu l'honneur de participer à la rédaction, à la fabrication et à l'expédition du journal, ont demandé à la direction de recevoir aussi, nommément, c'est-à-dire l'ensemble des élus du comité d'entreprise, l'ensemble des élus délégués du personnel, l'ensemble des gens donc qui ont participé à ce journal, ont demandé à la direction aussi un envoi de leur part d'un avertissement. Voilà. Nous avons réalisé ce 4 pages. Il faut savoir aussi que nous en sommes à la 9e non-parution de notre quotidien et que par rapport à ces non-parutions, il y a aussi bien sûr des réactions de nos lecteurs. Nous avons une réaction notamment et plusieurs bien sûr réactions de ces lecteurs qui nous est envoyée à ce jour, mais une je dirais qui est relativement significative, c'est que nos lecteurs s'interrogent aussi, ils n'ont que l'information qui passe donc par la direction et par son expression dans notre quotidien, et ils revendiquent aussi le droit de savoir ce qu'il se passe du côté de la fabrication, c'est-à-dire qu'ils demandent aussi que ce 4 pages qui a été fabriqué soit porté à leur connaissance, de façon qu'ils se fassent une idée et qu'ils puissent lire à égalité les propositions, aussi les positions des partenaires, que notre information, qu'ils jugent que leur information est incomplète et injuste, que la direction ne leur fait pas connaître assez le point de vue des partenaires sociaux dans ce conflit. Hein. Et ils s'interrogent aussi sur la politique ambitieuse de la direction, notamment au niveau de l'économie de marché, d'augmenter ses marges, de se renforcer, de faire des investissements de l'ordre de 80 à 100 millions de francs au niveau éditorial, ce qui est sans précédent dans le cadre de notre entreprise, et en fin de compte, de ne pas mettre un seul centime dans le secteur industriel et de développer la fabrication de son journal. Pour faire un résumé de nos actions, nous avons donc fait la réalisation et la fabrication de notre 4 pages. Nous avons fait une journée porte ouverte le 3 juin sur le site de fabrication de Montrouge avec pour thème majeur la défense de l'emploi et de l'outil industriel, qui a été une grande réussite. Nous en sommes aujourd'hui à 9 non-parutions du journal depuis le 3 avril, dont une de soutien de la part des personnels de photocomposition, de photogravure et de correction qui refusent la forte orientation prise par la direction de Fermi, le site de Montrouge. D'autres actions d'envergure sont aussi prévues à ce jour.
Je désirerais conclure en disant tout simplement que le personnel est extrêmement motivé, que la direction ferait bien d'en tenir compte, que les actions vont se durcir dans les jours à venir, notamment avec l'aide du syndicat GLCE de la presse parisienne, et que plusieurs opérations spectaculaires risquent de se produire et que la direction de Bayard Presse devrait vraiment faire attention à ce qui risque de se passer dans les jours à venir.
Et côté des dirigeants, je dirais religieux, entre guillemets, est-ce que vous avez des réactions ?
Côté des assomptionnistes, nous n'avons pas de réaction à ce jour. Nous avons envoyé notre journal spécial 4 pages qui retrace notre conflit, mais nous n'avons pas à ce jour, je dirais, de prise de position des assomptionnistes.
Eh bien, je pense que nous aurons l'occasion de reparler de tout ça, parce que ça n'a pas l'air réglé. Donc je vous remercie au nom de l'équipe d'AC et de Mode d'emploi et de même de la radio Fréquence Paris Pluriel qui nous accueille régulièrement toutes les semaines. Au revoir et bon courage.
Merci. Merci.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Claude, je crois que tu nous voulais nous parler d'un ami d'outre-Manche.
Oui, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait partie des dernières nouvelles du mouvement, tout ça. Monsieur Blair, ce célèbre gauchiste du Parti travailliste, là, qui est président de l'Europe jusqu'à la fin de ce mois. Alors, il réunit à Cardiff, au Pays de Galles, c'est-à-dire dans le Royaume-Uni, ses complices de l'Union européenne. Pour rajouter un peu plus sur le libéralisme, pour mettre un peu plus les États et les salariés entre les mains des multinationales qui règnent à Bruxelles. Alors, les chômeurs de toute l'Europe ont décidé d'être eux aussi présents à Cardiff. Et nos copains de chômeurs d'AC sont partis aujourd'hui déjà pour manifester leur opposition à cette opération.
Alors, quelques nouvelles du mouvement et des actions de prochaines. Alors, le 17 juin, la coupe est pleine, c'est-à-dire qu'il y aura un match des 100, France contre Brésil, enfin contre, ça sera très amical, hein, au stade Jules Ladoumègue à la Porte de Pantin, derrière le périphérique.
Ça s'appelle le match des footeurs de merde, F2OTEUR. Hein.
Oh, comme c'est bien. Et puis alors, il y aura aussi de la musique, des merguez, bien sûr, du rap, etc. Alors ensuite, le 18 juin, il y a une manif CGT du personnel de restauration rapide. Alors la réunion est au Forum des Halles Fontaine des Innocents à 11h. Ensuite, le 19, une manifestation des sans-papiers. Rendez-vous 18h30, boulevard Saint-Germain, métro Solferino. Le 20 juin, une journée d'action anti-répression à Clermont-Ferrand, on vous en a déjà parlé. Le 24 juin, place des fêtes à partir de 18h, à l'occasion de la Saint-Jean, il y aura un stand AC, place des fêtes donc. Le 30 juin, il y aura une manifestation au moment de la deuxième lecture de la loi contre l'exclusion à l'Assemblée nationale. Je pense que ça sera autour de l'Assemblée nationale, mais je n'ai pas le lieu exact. Et puis je vous rappelle que du 11 au 14 juillet, nous avons aussi, nous, nos journées d'été AC au Larzac.
Ah, ça c'est
alors,
bien.
Michel, tu
eh ben oui,
dire
puisque tu
chose
me laisses une petite minute, moi je voudrais parler de la grève d'Air France, de la fin de la grève d'Air France. J'aimerais faire trois remarques. Bien entendu, si nous sommes par principe pour les salariés contre les patrons, les pilotes plutôt bien payés ne sont pas les plus mal lotis à Air France. Néanmoins, trois remarques. Un, Monsieur U a mangé son chapeau. Au minimum, j'espère que c'était bon, en disant que M. Guesso ne serait pas le ministre de la baisse des salaires des pilotes. Tiens, car les gelés, pas les pilotes, mais les salaires pendant 7 ans, cela donne une diminution en fin de course comprise entre 10 et 15% si l'inflation reste où elle en est. Bon, deuxièmement, nous sommes par principe, je me dépêche, on n'a plus le temps, nous sommes par principe et de façon intangible contre les baisses de salaire. C'est continuer à peser sur les salariés alors que ce pays s'enrichit sans cesse et les patrons avec lui. Ce n'est pas l'orientation de la gauche plurielle. Cette droite, affublée d'une étiquette de gauche, joue à tout coup contre les salariés, contre les chômeurs, les sans-papiers, les jeunes de banlieue, etc. Avec une application, une obstination à toujours appauvrir les plus pauvres, comme l'affaire du livret de caisse d'épargne, du livret A, le prouve une fois de plus. Notre gouvernement est de plus en plus pleinement réactionnaire. Troisièmement. Les réactions des médias qui tressent des couronnes à Jospin pour ces orientations-là, en particulier sur l'affaire d'Air France, sont intéressantes. Ils sont toujours du côté des patrons. Principe, aucune revendication ne doit pouvoir aboutir. Il faut prouver aux salariés qu'ils sont impuissants. Et du côté du pouvoir, principe, Jospin nous a rendu l'abattement de 30% sur nos impôts. Je parle des journalistes, hein, ayant la reconnaissance du ventre, oui, du porte-monnaie. Heureusement, la confiance que les citoyens accordent aux médias est en perte de vitesse. Bien, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 103.6, restez-y.
106.3,
oui, en fin d'émission, c'est dur. Nos camarades de SM sont arrivés et vont prendre le relais. Vous nous retrouverez vendredi prochain. À 20h30, pardon, pour un nouveau mode d'emploi. Au revoir.
Eu fico com a beleza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
que confio na mocidade.